Honoré de Balzac. Illusion perdue. 18. Au commencement du mois d'octobre, Lucien, après avoir employé le reste de son argent pour se procurer un peu de bois, resta sans ressources au milieu du plus ardent travail, celui du remaniement de son œuvre. Daniel d'Arthez lui brûlait des mottes et supportait héroïquement la misère. Il ne se plaignait point, il était rangé comme une vieille fille et ressemblait à un avare, tant il avait de méthode. Ce courage excitait celui de Lucien qui, nouveau venu dans le cénacle, éprouvait une invincible répugnance à parler de sa détresse. Un matin, il alla jusqu'à la rue du Coq pour vendre l'archet de Charles IX à Doguereau, qu'il ne rencontra pas. Lucien ignorait combien les grands esprits ont d'indulgence. Chacun de ses amis concevait les faiblesses particulières aux hommes de poésie, les abattements qui suivent les efforts de l'âme surexcitée par les contemplations de la nature qu'ils ont mission de reproduire. Ces hommes, si forts contre leurs propres maux, étaient tendres pour les douleurs de Lucien. Ils avaient compris son manque d'argent. Le cénacle couronna donc les douces soirées de causerie, de profondes méditations, de poésie, de confidences, de courses à pleines ailes dans les champs de l'intelligence, dans l'avenir des nations, dans les domaines de l'histoire, par un trait qui prouve combien Lucien avait peu compris ses nouveaux amis. « Lucien, mon ami, lui dit Daniel, tu n'es pas venu dîner hier chez Flicoteaux, et nous savons pourquoi. » Lucien ne put retenir des larmes qui coulèrent sur ses joues. « Tu as manqué de confiance en nous, lui dit Michel Chrétien. Nous ferons une croix à la cheminée, et quand nous serons à 10, nous avons tous, dit Bianchon, trouvé quelque travail extraordinaire. Moi, j'ai gardé pour le compte de Desplein un riche malade. D'Arthez a fait un article pour la revue encyclopédique. Chrétien a voulu aller chanter un soir dans les Champs-Élysées avec un mouchoir et 4 chandelles. Mais il a trouvé une brochure à faire pour un homme qui veut devenir un homme politique. Et il lui a donné pour 600 francs de Machiavel. Léon Giraud a emprunté 50 francs à son libraire. Joseph a vendu des croquis. Et Fulgence a fait donner sa pièce dimanche. Il a eu salle pleine. Voilà 200 francs, dit Daniel. Accepte-les et qu'on ne t'y reprenne plus. Allons, ne va-t-il pas nous embrasser, comme si nous avions fait quelque chose d'extraordinaire, dit Chrétien. Pour faire comprendre quelle délice ressentait Lucien dans cette vivante encyclopédie d'esprits angéliques, de jeunes gens, empreints des originalités diverses que chacun d'eux tirait de la science qu'il cultivait, il suffira de rapporter les réponses que Lucien reçut le lendemain à une lettre écrite à sa famille, chef-d'œuvre de sensibilité, de bon vouloir, un horrible cri que lui avait arraché sa détresse. Lettre de David Séchard à Lucien. Mon cher Lucien, tu trouveras 6 juin un effet à 90 jours et à ton ordre de 200 francs. Tu pourras le négocier chez M. Métivier, marchand de papier, notre correspondant à Paris, rue Serpente. Mon bon Lucien, nous n'avons absolument rien. Ma femme s'est mise à diriger l'imprimerie et s'acquitte de sa tâche avec un dévouement, une patience, une activité qui me font bénir le ciel de m'avoir donné pour femme un pareil ange. Elle-même a constaté l'impossibilité où nous sommes de t'envoyer le plus léger secours. Mais, mon ami, je te crois dans un si beau chemin, accompagné de cœurs si grands et si nobles, que tu ne saurais faillir à ta belle destinée en te trouvant aidé par les intelligences presque divines de messieurs Daniel d'Arthez, Michel Chrétien et Léon Giraud, conseillé par messieurs Méraud, Bianchon et Ridal, que ta chère lettre nous a fait connaître. À l'insu d'Ève, je t'ai donc souscrit cet effet, que je trouverai moyen d'acquitter à l'échéance. Ne sors pas de ta voie. Elle est rude, mais elle sera glorieuse. Je préférerais souffrir 1000 maux à l'idée de te savoir tomber dans quelque bourbier de Paris où j'en ai tant vu. Aie le courage d'éviter, comme tu le fais, les mauvais endroits, les méchantes gens, les étourdis, et certains gens de lettres que j'ai appris à estimer à leur juste valeur pendant mon séjour à Paris. Enfin, sois le digne émule de ces esprits célestes que tu m'as rendu cher. Ta conduite sera bientôt récompensée. Adieu, mon frère bien-aimé. Tu m'as ravi le cœur. Je n'avais pas attendu de toi tant de courage. David. Lettre d'Ève Séchard à Lucien Chardon. Mon ami, ta lettre nous a fait pleurer tous. Que ces nobles cœurs vers lesquels ton bon ange te guide le sachent, une mère, une pauvre jeune femme, prieront Dieu soir et matin pour eux. Et si les prières les plus ferventes montent jusqu'à son trône, elles obtiendront quelque faveur pour vous tous. Oui, mon frère, leurs noms sont gravés dans mon cœur. Ah, je les verrai quelque jour. J'irai, dussé-je faire la route à pied, les remercier de leur amitié pour toi, car elle a répandu comme un baume sur mes plaies vives. Ici, mon ami, nous travaillons comme de pauvres ouvriers. Mon mari, ce grand homme inconnu que j'aime chaque jour davantage, en découvrant de moment en moment de nouvelles richesses dans son cœur, délaisse son imprimerie, et je devine pourquoi. Ta misère, la nôtre, celle de notre mère, l'assassine. Notre adoré David est, comme Prométhée, dévoré par un vautour, un chagrin jaune à bec aigu. Quant à lui, le noble homme, il n'y pense guère, il a l'espoir d'une fortune. Il passe toutes ses journées à faire des expériences sur la fabrication du papier. Il m'a prié de m'occuper à sa place des affaires, dans lesquelles il m'aide autant que le lui permet sa préoccupation. Hélas, je suis grosse. Cet événement qui m'eût comblé de joie m'attriste dans la situation où nous sommes tous. Ma pauvre mère est redevenue jeune, elle a retrouvé des forces pour son fatigant métier de garde-malade. Au souci de fortune près, nous serions heureux. Le vieux père Séchard ne veut pas donner un liard à son fils. David est allé le voir pour lui emprunter quelques deniers afin de te secourir, car ta lettre l'avait mis au désespoir. « Je connais Lucien, il perdra la tête et fera des sottises, » disait-il. Je l'ai bien grondé. « Mon frère manquait à quoi que ce soit, » lui ai-je répondu. « Lucien sait que j'en mourrai de douleur. » Ma mère et moi, sans que David s'en doute, nous avons engagé quelques objets. Ma mère les retirera dès qu'elle rentrera dans quelque argent. Nous avons pu faire ainsi 100 francs que je t'envoie par les messageries. Si je n'ai pas répondu à ta première lettre, ne m'en veux pas, mon ami. Nous étions dans une situation à passer les nuits. Je travaillais comme un homme. Ah, je ne me savais pas autant de force. Madame de Bargeton est une femme sans âme ni cœur. Elle se devait, même en ne t'aimant plus, de te protéger et de t'aider, après t'avoir arraché de nos bras pour te jeter dans cette affreuse mer parisienne, où il faut une bénédiction de Dieu pour rencontrer des amitiés vraies parmi ces flots d'hommes et d'intérêts. Elle n'est pas à regretter. Je te voulais auprès de toi quelque femme dévouée, une seconde moi-même. Mais maintenant que je te sais des amis qui continuent nos sentiments, me voilà tranquille. Déploie tes ailes, mon beau génie aimé. Tu seras notre gloire, comme tu es déjà notre amour. Ève. Mon enfant chéri, je ne puis que te bénir après ce que dit ta sœur, et t'assurer que mes prières et mes pensées ne sont, hélas, pleines que de toi, au détriment de ceux que je vois. Car il y a des cœurs où les absents ont raison, et il en est ainsi dans le cœur de ta mère. Ainsi, deux jours après, Lucien put rendre à ses amis leur prêt, si gracieusement offert. Jamais, peut-être, la vie ne lui sembla plus belle, mais le mouvement de son amour-propre n'échappa point au regard profond de ses amis et à leur délicate sensibilité.
« On dirait que tu as peur de nous devoir quelque chose !» s'écria Fulgence.
« Oh, le plaisir qu'il manifeste est bien grave à mes yeux !» dit Michel Chrétien. « Il confirme les observations que j'ai faites. Lucien a de la vanité. »
« Il est poète, » dit d'Arthez.
« M'en voulez-vous d'un sentiment aussi naturel que le mien ?
Il faut lui tenir compte de ce qu'il ne nous l'a pas caché, » dit Léon Giraud.
« Il est encore franc.
Mais j'ai peur que plus tard, il ne nous redoute. »«
Et pourquoi ? » demanda Lucien.
« Nous lisons dans ton cœur, » répondit Joseph Brideau.
« Il y a chez toi, » lui dit Michel Chrétien, « un esprit diabolique avec lequel tu justifieras à tes propres yeux les choses les plus contraires à nos principes. Au lieu d'être un sophiste d'idées, tu seras un sophiste d'action. »«
Ah, j'en ai peur, » dit d'Arthez.
« Lucien, tu feras en toi-même des discussions admirables où tu seras grand et qui aboutiront à des faits blâmables. Tu ne seras jamais d'accord avec toi-même. »
« Sur quoi donc appuyez-vous votre réquisitoire ?» demanda Lucien.
« Ta vanité, mon cher poète,
est si grande que tu en mets jusque dans ton amitié !» s'écria Fulgence.
« Toute vanité de ce genre accuse un effroyable égoïsme, et l'égoïsme est le poison de l'amitié !»«
Oh mon Dieu !» s'écria Lucien. « Vous ne savez donc pas combien je vous aime ?»
Si tu nous aimais comme nous nous aimons, aurais-tu mis tant d'empressement et tant d'emphase à nous rendre ce que nous avions tant de plaisir à te donner ?
On ne se prête rien ici, on se donne, lui dit brutalement Joseph Brideau.
Ne nous crois pas rudes, mon cher enfant, lui dit Michel Chrétien. Nous sommes prévoyants. Nous avons peur de te voir un jour, préférant les joies d'une petite vengeance aux joies de notre pure amitié. Lis le Tasse de Goethe, la plus grande œuvre de ce beau génie, et tu y verras que le poète aime les brillantes étoffes, les festins, les triomphes, l'éclat. Eh bien, sois le Tasse sans sa folie. Le monde et ses plaisirs t'appelleront. Reste ici. Transporte dans la région des idées tout ce que tu demandes à tes vanités. Folie pour folie, mets la vertu dans tes actions et le vice dans tes idées. Au lieu, comme te le disait d'Arthez, de bien penser et de te mal conduire.
Lucien baissa la tête. Ses amis avaient raison.
J'avoue que je ne suis pas aussi fort que vous l'êtes, dit-il en leur jetant un adorable regard. Je n'ai pas des reins et des épaules à soutenir Paris, à lutter avec courage. La nature nous a donné des tempéraments et des facultés différentes, et vous connaissez mieux que personne l'envers des vices et des vertus. Je suis déjà fatigué, je vous le confie.
Nous te soutiendrons, dit d'Arthez. Voilà précisément à quoi servent les amitiés fidèles.
Le secours que je viens de recevoir est précaire, et nous sommes tous aussi pauvres les uns que les autres. Le besoin me poursuivra bientôt. Chrétien, au gage du premier venu, ne peut rien en librairie. Bianchon est en dehors de ce cercle d'affaires. D'Arthez ne connaît que les libraires de science ou de spécialité qui n'ont aucune prise sur les éditeurs de nouveautés. Horace, Fulgence Ridal et Brideau travaillent dans un ordre d'idées
qu'il est mis à 100 lieues des libraires. Je dois prendre un parti.
Tiens-toi donc au nôtre.
Souffrir, dit Bianchon, souffrir courageusement et se fier au travail.
Mais ce qui n'est que souffrance pour vous est la mort pour moi, dit vivement Lucien.
Avant que le coq ait chanté 3 fois, dit Lucien Giraud en souriant,
cet homme aura trahi la cause du travail pour celle de la paresse et des vices de Paris.
Où le travail vous a-t-il mené ? Dit Lucien en riant.
Quand on part de Paris pour l'Italie, on ne trouve pas Rome à moitié chemin,
dit Joseph Bridau. Pour toi, les petits pois devraient pousser tout accommodés au beurre.
Ils ne poussent ainsi que pour les fils aînés des pères de France,
dit Michel Chrestien.
Mais nous autres, nous les semons, les arrosons et les trouvons meilleurs.
La conversation devint plaisante et changea de sujet. Ces esprits perspicaces, ces cœurs délicats, cherchèrent à faire oublier cette petite querelle à Lucien, qui comprit dès lors combien il était difficile de les tromper. Il arriva bientôt à un désespoir intérieur qu'il cacha soigneusement à ses amis en les croyant des mentors implacables. Son esprit méridional, qui parcourait si facilement le clavier des sentiments, lui faisait prendre les résolutions les plus contraires. À plusieurs reprises, il parla de se jeter dans les journaux, et toujours ses amis lui dirent « Gardez-vous-en bien !»
Là serait la tombe du beau, du suave Lucien que nous aimons et connaissons, dit d'Arthez.
Tu ne résisterais pas à la constante opposition de plaisir et de travail qui se trouve dans la vie des journalistes.
Et résister, c'est le fond de la vertu. Tu serais si enchanté d'exercer le pouvoir, d'avoir droit de vie et de mort sur les œuvres de la pensée, que tu serais journaliste en 2 mois. Être journaliste, c'est passer proconsul dans la République des lettres. Qui peut tout dire arrive à tout faire.
Cette maxime est de Napoléon et se comprend.
Ne serez-vous pas près de moi ? Dit Lucien.
Nous n'y serons plus, s'écria Fulgence. Journaliste, tu ne penserais pas plus à nous que la fille d'opéra brillante, adorée, ne pense, dans sa voiture doublée de soie, à son village, à ses vaches, à ses sabots.
Tu n'as que trop les qualités du journaliste, le brillant et la soudaineté de la pensée.
Tu ne te refuserais jamais à un trait d'esprit, dût-il faire pleurer ton ami.
Je vois les journalistes au foyer de théâtre, ils me font horreur.
Le journalisme est un enfer, un abîme d'iniquité, de mensonge, de trahison, que l'on ne peut traverser et d'où l'on ne peut sortir pur, que protégé, comme Dante, par le divin laurier de Virgile.
Plus le cénacle défendait cette voie à Lucien, plus son désir de connaître le péril l'invitait à s'y risquer, et il commençait à discuter en lui-même. N'était-il pas ridicule de se laisser encore une fois surprendre par la détresse sans avoir rien fait contre elle ? En voyant l'insuccès de sa démarche à propos de son premier roman, Lucien était peu tenté d'en composer un second. D'ailleurs, de quoi vivrait-il pendant le temps de l'écrire ? Il avait épuisé sa dose de patience durant 1 mois de privation. Ne pourrait-il faire noblement ce que les journalistes faisaient sans conscience ni dignité ? Ses amis l'insultaient avec leur défiance. Il voulait leur prouver sa force d'esprit. Il les aiderait peut-être un jour. Il serait le héros de leur gloire.
D'ailleurs, qu'est-ce donc une amitié qui recule devant la complicité ? Demanda-t-il un soir à Michel Chrestien, qu'il avait reconduit jusque chez lui en compagnie de Léon Giraud.
Nous ne reculons devant rien, répondit Michel Chrestien.
Si tu avais le malheur de tuer ta maîtresse, je t'aiderais à cacher ton crime et pourrais t'estimer encore.
Mais si tu devenais espion, je te fuirais avec horreur.
car tu serais lâche et infâme par système. Voilà le journalisme en deux mots. L'amitié pardonne l'erreur, le mouvement irréfléchi de la passion. Elle doit être implacable pour le parti pris de trafiquer de son âme, de son esprit et de sa pensée. Ne puis-je me faire journaliste pour vendre mon recueil de poésie et mon roman, puis abandonner aussitôt le journal ?
Un Machiavel se conduirait ainsi, mais non Lucien de Rubempré, dit Léon Giraud.
« Eh bien, s'écria Lucien, je vous prouverai que je vaux Machiavel. »
« Ah ! S'écria Michel en serrant la main de Léon, tu viens de le perdre.
Lucien, dit-il, tu as 300 francs. C'est de quoi vivre pendant 3 mois à ton aise. Eh bien, travaille, fais un second roman. D'Arthez et Fulgence t'aideront pour le plan. Tu grandiras, tu seras un romancier. Moi, je pénétrerai dans un de ces lupanards de la pensée. Je serai journaliste pendant 3 mois. Je te vendrai tes livres à quelques libraires de qui j'attaquerai les publications. J'écrirai les articles. J'en obtiendrai pour toi. Nous organiserons un succès. Tu seras un grand homme et tu resteras notre Lucien. Tu me méprises donc bien en croyant que je périrai là où tu te sauveras, dit le poète.
Pardonnez-lui, mon Dieu, c'est un enfant, s'écria Michel Chrestien.
Après s'être dégourdi l'esprit pendant les soirées passées chez d'Arthez, Lucien avait étudié les plaisanteries et les articles des petits journaux. Sûr d'être au moins l'égal des plus spirituels rédacteurs, il s'essaya secrètement à cette gymnastique de la pensée et sortit un matin avec la triomphante idée d'aller demander du service à quelques colonels de ces troupes légères de la presse. Il se mit dans sa tenue la plus distinguée et passa les ponts en pensant que des auteurs, des journalistes, des écrivains, enfin, ses frères futurs, auraient un peu plus de tendresse et de désintéressement que les deux genres de libraires contre lesquels s'étaient heurtées ses espérances. Il rencontrerait des sympathies, quelques bonnes et douces affections, comme celles qu'il trouvait au Cénacle de la rue des Quatre Vents. En proie aux émotions du pressentiment écouté, combattu, qu'aiment tant les hommes d'imagination, il arriva rue Saint-Fiacre, auprès du boulevard Montmartre, devant la maison où se trouvaient les bureaux du petit journal et dont l'aspect lui fit éprouver les palpitations du jeune homme entrant dans un mauvais lieu. Néanmoins, il monta dans les bureaux situés à l'entresol. Dans la première pièce, que divisait en deux parties égales une cloison moitié en planche et moitié grillagée jusqu'au plafond, il trouva un invalide manchot qui, de son unique main, tenait plusieurs rames de papier sur la tête et avait entre ses dents le livret voulu par l'administration du timbre. Ce pauvre homme, dont la figure était d'un ton jaune et semé de bulbes rouges, ce qui lui valait le surnom de coloquinte, lui montra derrière le grillage le cerbère du journal. Ce personnage était un vieil officier décoré, le nez enveloppé de moustaches grises, un bonnet de soie noire sur la tête, et enseveli dans une ample redingote bleue comme une tortue sous sa carapace.
« De quel jour, monsieur, veut-il que parte son abonnement ?» lui demanda l'officier de l'Empire.
« Je ne viens pas pour un abonnement, » répondit Lucien. Le poète regarda sur la porte qui correspondait à celle par laquelle il était entré, la pancarte où se lisaient ces mots « Bureau de rédaction », et au-dessous, « Le public n'entre pas ici ».
« Une réclamation, sans doute ?» reprit le soldat de Napoléon.
« Ah oui, nous avons été durs pour Mariette.
Que voulez-vous ? Je ne sais pas encore le pourquoi, mais si vous demandez raison, je suis prêt, »
ajouta-t-il, en regardant des fleurets et des pistolets, la panoplie moderne groupée en faisceau dans un coin. « Encore moins, monsieur. Je viens pour parler au rédacteur en chef. »«
Il n'y a jamais personne ici avant 4 heures. »«
Voyez-vous, mon vieux Giroudeau, je trouve 11 colonnes. lesquels, à 100 sous pièces, font 55 francs. J'en ai reçu 40, donc vous me devez encore 15 francs, comme je vous le disais. » Ces paroles partaient d'une petite figure chafouine, claire comme un blanc d'œuf mal cuit, percée de deux yeux d'un bleu tendre, mais effrayant de malice, et qui appartenait à un jeune homme mince, caché derrière le corps opaque de l'ancien militaire. Cette voix glaça Lucien. Elle tenait du miaulement des chats et de l'étouffement asthmatique de l'hyène.
« Oui, mon petit milicien, » répondit l'officier en retraite. « Mais vous comptez les titres et les blancs. J'ai ordre de Finot d'additionner le total des lignes et de les diviser par le nombre voulu pour chaque colonne. Après avoir pratiqué cette opération strangulatoire sur votre rédaction, il s'y trouve 3 colonnes de moins. Il ne paie pas les blancs, l'arabe, et il les compte à son associé dans le prix de sa rédaction en masse. Je vais aller voir Étienne Lousteau, vers nous.
« Je ne puis enfreindre la consigne, mon petit, » dit l'officier.
« Comment, pour 15 francs, vous criez contre votre nourrice? Vous qui faites des articles aussi facilement que je fume un cigare, eh bien, vous paierez un bol de punch de moins à vos amis, ou vous gagnerez une partie de billard de plus, et tout sera dit.
Finot réalise des économies qui lui coûteront bien cher, » répondit le rédacteur qui se leva et partit.
« Ne dirait-on pas qu'il est Voltaire et Rousseau ?»
se dit à lui-même le caissier en regardant le poète de province. « Monsieur, » reprit Lucien, « je reviendrai vers 4 heures.